Une joie d'être avec vous encore ce matin pour contribuer dans la série sur l'Évangile de Jean. Et ce que j'ai pensé bon faire ou refaire, il y a en 2020, j'avais fait ce message alors que l'Église était en ligne. Alors, je sais que tout le monde, vous avez tous suivi tous les messages à toutes les semaines en ligne, là, puis vous n'avez pas manqué un. Mais au cas où quelqu'un l'aurait manqué à Châteauguay, je vais le refaire ici en présentiel parce que c'est beaucoup plus agréable de le faire en présentiel. Parce que ça se trouve dans l'Évangile de Jean, et c'est une rencontre avec justement Jésus qu'on découvre, hein, dans la série de Découvrir Jésus. On découvre une facette de Jésus qui est absolument phénoménale, qu'il rencontre une femme, une Samaritaine qui vient au puits. Et dans cette rencontre, cette femme-là va passer du rejet à la réjouissance. Elle va passer d'une vie de rejet à un moment, un temps, une transformation à la réjouissance. Le rejet, c'est probablement une des plus grandes souffrances qu'une personne peut subir. Il y a quelque chose de profondément blessant dans le rejet, lorsqu'on vit le rejet. Quand un enfant se sent rejeté, il ne se dit pas « mes parents sont poches », il se dit « je suis poche ». Parce que mes parents sont parfaits, s'ils me rejettent, c'est à cause de moi. Et le rejet, il y a quelque chose qui est profondément douloureux. Et en regardant cette histoire, j'aimerais regarder comment cette femme-là, qui a vécu énormément de rejet, a été transformée. Et découvrir la source de vie qui vient étancher la soif profonde de chaque être humain, c'est d'être aimé. C'est d'être aimé. Donc, bien qu'on regarde une femme aujourd'hui dans cette histoire, c'est vrai pour tous les humains. Tous les humains ont cette soif d'être aimé. Donc, si tu es un humain masculin, le message s'applique à toi. Maintenant, si tu es masculin et tu n'es pas humain, mais là, ça, pas quoi faire pour toi, là, mais hein, ça s'applique pour tout le monde. Chaque être humain a cette soif profonde de ne pas se sentir rejeté, d'être accepté, d'être aimé. Quelles étaient les sources du rejet pour cette femme-là? On le voit dans Jean 4, les versets 4 à 9. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, et c'était environ la sixième heure, c'est-à-dire il est midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Il y a plusieurs sources de rejet dans la vie de cette femme-là. Premièrement, il y a un rejet social. Rejet social à cause de son genre. C'est une femme. Et dans la culture du Moyen-Orient, une femme n'a pas la même valeur qu'un homme. C'est encore vrai dans plusieurs de ces régions-là aujourd'hui. Mais à l'époque, une femme est vraiment une citoyenne de deuxième classe. Les femmes ont tellement peu de valeur qu'une femme peut être témoin d'un incident et son témoignage en cour ne sera pas retenu parce que c'est une femme. Aïe, aïe. C'est une femme. Donc, son témoignage n'est pas retenu parce que c'est une femme. Rappelez-vous les disciples sur la route d'Emmaüs. Vous vous souvenez d'eux autres? Ils étaient découragés. Puis il y en a un qui dit à un moment donné, « Wow, il y a des femmes qui disent. » Bien, c'est ça. C'est des femmes. On ne peut pas se fier à leur témoignage. C'est des femmes. Elle vit un rejet social par le fait que c'est une femme. Non seulement est-ce que c'est une femme, mais c'est une Samaritaine. Et les Samaritains sont détestés par les Juifs. Les Samaritains sont pris entre deux sections qui forment Israël, sont pris entre les deux. Sont en sandwich, si je peux dire ainsi. C'est pour ça qu'il faut qu'on traverse la Samarie pour se rendre à Jérusalem, pour que Jésus puisse se rendre. Et on les considère, ces gens-là, comme des impurs. On va même leur dire que ce sont comme des chiens. C'est comme ça que les Juifs regardent les Samaritains. Pourquoi est-ce qu'on les haït à ce point-là? Parce que les Samaritains, ce sont ceux d'Israël à l'époque de la Babylonie, quand Nebuchadnezzar va venir, puis là, il se retrouve à Babylonie, ce sont ceux qui, quand Néhémie va dire, on s'en va reconstruire Jérusalem, ce sont ceux qui disent, Sais-tu quoi? Nous, on est installés ici, là. On est en Babylonie, là, puis on est bien ici, là. Fait que, allez-y, vous autres. Nous autres, on reste ici parce qu'on s'est mariés avec des Babyloniennes ou avec des Babyloniens, hein? Puis il y a du compromis, puis il y a des... Alors, nous, on va rester ici. Et les Juifs les détestent parce que non seulement ils ont fait ce compromis-là, mais là, ils sont pris un peu avec les Écritures qui disent d'aller adorer à Jérusalem. Mais ils ne peuvent pas y aller à Jérusalem, c'est des Samaritains. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va changer ça, nous autres, on va ajuster ça, on va aller sur la montagne, nous autres. On a une montagne, on va aller sur la montagne. Hein? Puis ça va faire partie du discours de la Samaritaine avec Jésus. Mais vous comprenez que pour un Juif, c'est un sacrilège épouvantable. Ils ont touché aux Saintes Écritures, ils ont modifié les Saintes Écritures, ils les ont réadaptées pour leurs besoins. La Samarie à l'époque de Jésus, c'est un ghetto. C'est un ghetto culturel. Et ils sont victimes de racisme. Ils sont constamment victimes de racisme. C'est pour ça que Jésus n'arrête pas de les utiliser dans ses images de comment traiter son prochain. Hein, la plus célèbre, c'est le bon samaritain. Comprenez-vous ce que Jésus est en train de faire, là? Il les pique au plus vif de leur racisme, au plus vif de leur haine et de leur dégoût pour un peuple. Jésus vient et dit, non, 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 il n'y a pas de place pour le racisme. Cette samaritaine fait partie d'un sexe et d'une race qui est rejetée. Mais il y a aussi un rejet communautaire. Et là, ce rejet, il est beaucoup plus personnel. On rejette cette femme-là à cause de sa réputation dans le village. Elle n'a pas une bonne réputation. Et c'est pour ça qu'elle va venir puiser de l'eau à la sixième heure, alors que les femmes viennent puiser l'eau tôt le matin, avant que le soleil soit fort. Il n'y a personne qui vient puiser de l'eau à midi, le soleil est trop fort. Mais elle vient à midi parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas personne, elle va être tranquille pour venir puiser de l'eau. Il n'y aura pas de murmure, il n'y aura pas de regard, il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura pas de parole critique des autres femmes qui vont être là pour aller chercher de l'eau tôt le matin. Elle fuit le regard. C'est comme si elle fuit leur dédain, elle fuit leur jugement, parce qu'elle sait de la façon qu'elle va être regardée, parce qu'elle a une mauvaise réputation dans le village. Et qu'est-ce qui était la cause de ce rejet-là dans le village? Bien, un peu plus tard, on va apprendre qu'elle a eu 5 maris, et l'homme avec lequel elle vit, il n'est pas son mari, est en concubinage. C'est la raison pour laquelle on va la fuir. Et non seulement est-ce que cette communauté la rejette, mais il est fort probable que sa propre famille à elle demeure dans cette communauté-là. Ça peut être sa propre famille à elle qui la rejette également. Elle a vécu également un rejet émotionnel à l'intérieur de ses relations de couple. La Bible nous dit qu'elle a eu 5 maris. 5 maris. Ce n'est pas dit qu'elle a été 5 fois divorcée. C'est pas ça qui est écrit. Il est écrit qu'elle a eu 5 maris. Il est donc possible qu'à 1, 2, 3, qui sait le nombre de reprises, qu'elle soit veuve. Et c'est possible qu'un de ses époux y est mort. Le taux de vie, là, l'attente de la durée de la vie à cette époque-là est très bas. Là, okay? Donc, c'est possible que cette femme-là s'est retrouvée veuve, très jeune. Donc, elle n'est pas nécessairement 5 fois divorcée. Mais ce qui est clair dans ce que Jésus est en train de lui dire, tu as eu 5 maris, elle a vécu 5 déchirures émotionnelles. Ça, c'est clair. Parce que tu ne te maries pas avec l'idée que tu vas te séparer. Tu ne te maries pas avec l'idée que tu vas te divorcer. Tu ne te maries pas avec l'idée que l'autre va partir. Elle a eu 5 déchirures émotionnelles. Parce qu'on sait qu'à l'époque, c'est l'homme qui demande le divorce. Ce n'est pas la femme. 2 citoyennes de deuxième classe, pas de droit. Ce n'est pas la femme qui va demander le divorce. C'est l'homme. Et une des raisons majeures légal accepté pour demander le divorce, c'est si une femme ne peut pas nous donner d'enfants. Si je marie une femme et elle ne peut pas enfanter, j'ai le droit de la divorcer. Pensez-vous avoir un autre côté de cette femme-là? que possiblement la raison pourquoi on la rejette à 5 reprises ou qu'on la rejette constamment, c'est qu'elle n'est pas capable d'avoir un enfant. Malgré peut-être son désir profond, malgré son désir peut-être très ancré en elle, ses mariages se sont écroulés parce qu'elle n'est pas capable d'enfanter. Tu vois sa douleur émotionnelle, le rejet qu'elle vit, alors qu'elle est peut-être veuve, mais elle est peut-être aussi dans une souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, elle accepte quoi? Elle accepte le concubinage. Elle accepte de vivre avec un homme qui n'est pas son mari. Bon, aujourd'hui, c'est chose commune. Hein? Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a émergé de Statistique Canada que le Canada est le pays numéro 1 au monde pour le concubinage. Bravo à nous. On est champion dans quelque chose. Et devinez qui est la province championne. Ta-da! C'est probablement à cause de nous autres que le Canada est arrivé numéro 1. Hein? C'est cause commune aujourd'hui que des gens vont être en concubinage. Mais à cette époque-là, c'est impensable, c'est scandaleux. C'est pas accepté dans les normes, c'est pas accepté dans les normes sociales de l'époque, c'est l'exception, c'est pas accepté. C'est scandaleux. Et plusieurs commentateurs sont d'accord avec l'idée que la raison probable pour laquelle elle n'est pas mariée avec cet homme-là, c'est que cet homme-là, il est déjà marié, mais qu'il vient dans le village, il vient dans cette région-là pour travailler pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pour retourner dans sa famille. C'est pour ça qu'elle ne peut pas l'épouser, c'est pour ça qu'il ne veut pas l'épouser. Elle accepte ce compromis. Mais il y a aussi un rejet d'elle-même. C'est comme si cette femme-là se rejetait. Après avoir vécu beaucoup de rejets, elle se croit incapable, indigne, sans valeur, même pas assez pour donner un verre d'eau à Jésus. Comment peux-tu me demander, moi, une femme, pour un verre? Tu vois la honte? J'ai pas de valeur. Je me rejette moi-même. Elle se rejette elle-même. Elle se croit incapable de juste donner un verre d'eau à Jésus. Après tant d'échecs, après tant de mauvais choix, après tant de faux espoirs, après tant de compromis, son estime est à zéro et elle accepte même une relation amoureuse qui est totalement inacceptable dans son contexte. Pourquoi? Parce qu'elle a soif d'être aimée. Et au moins, j'ai un peu d'amour. Mais elle se rejette dans sa valeur de qui elle est. Je suis pas mal certain que quand elle était petite, si on avait pu la rencontrer, je suis pas mal certain que ce qu'elle vivait là, c'était pas son rêve. C'est pas de ça qu'elle rêvait quand elle était enfant. Peux-tu t'imaginer la souffrance du rejet de cette femme-là? Et peut-être pour certains ici, tu n'as pas besoin de beaucoup d'imagination. Parce que tu comprends c'est quoi être rejeté. Tu sais la douleur du rejet. La douleur d'avoir été rejeté. Homme ou femme, peut-être tu as été rejeté à cause de ta race. Peut-être que pour des raisons raciales, on t'a rejeté. À cause de la couleur de ta peau, à cause de ta culture, on t'a rejeté. À cause de ta langue, on t'a rejeté. Tu as été victime d'injustice et de racisme linguistique parce que tu parles une langue différente et que le français est ta langue seconde ou peu importe l'autre langue pour laquelle tu as été victime. Peut-être as-tu été victime de ressentir que tu as été quelqu'un qu'on a considéré comme quelqu'un de deuxième classe, de seconde classe. Tu n'avais pas la même citoyenneté. Tu n'avais pas la même éducation. Tu n'étais pas dans le même niveau social. Tu n'as pas fait ce que la famille pensait. Peut-être as-tu été rejeté dans ta propre famille à cause de ta spiritualité. On a dit, parce que tu voulais être chrétien, on te rejette. Surtout si, comme moi, tu as voulu devenir pasteur et que ton père te dit, tu n'es plus mon fils. Peut-être as-tu été victime de rejet. Peut-être as-tu été victime aussi d'un rejet communautaire. Peut-être as-tu vécu du rejet dans l'Église, alors que tu as vécu des choses qui ont été de mauvaise réputation. Et l'Église, au lieu de se souvenir qu'elle est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs, a pensé qu'elle était un musée pour les saints, t'a rejeté. Tu ne fitais pas. J'ai rencontré un pasteur d'un autre continent, pas dit lequel, mais d'un autre continent. Et dans un échange, il me dit, tu sais, chez nous, il n'y a pas de divorcés dans l'Église. Là, il avait mon attention. Là, il avait mon attention. OK. C'est quoi ton secret? Donne-moi ton secret, là, OK? C'est quoi ton secret qu'il n'y a pas de divorcé dans ton Église? Et il m'a dit d'une façon très, très, très bien confortable, même pas mal à l'aise. Ah, chez nous, quand les gens se divorcent, hein, c'est à la porte. Ah! Effectivement, il n'y a pas de divorcé dans ton Église. Effectivement, parce que tu les mets à la porte. Mais est-ce que c'est ça à quoi Jésus nous appelle? Le rejet dans l'Église. Le rejet des fois parce que tu es célibataire. Le rejet parce que qui tu es, on n'a pas reconnu dans ta famille qui tu étais. Peut-être que tu as vécu du rejet depuis ton enfance à cause de ce que toi tu aimais, qui était contraire peut-être à ce que ta famille aimait. Mon père me traitait de tous les noms quand j'étais jeune. Je vous les dirai pas parce que ça se dit pas dans une église, bien que ça l'inclut de l'ameublement d'église, là, mais les choses de... J'étais grand, c'est ça. Mais une des choses qu'il m'a toujours dit, c'est que j'étais imbécile. Vous savez pourquoi? Je suis pas très bon avec un marteau. Je suis pas le gars le plus habile. Okay? C'est certain, les enfants, quand ils étaient petits, puis ils me voyaient sortir des outils, ils disaient, « Maman, papa, il y a des outils dans les mains, là. » Hein? Et là, tout de suite, on allait chercher la boîte de Band-Aid, là. Tu sais, les plasters, là. On allait chercher la boîte, mettait ça pas loin. Puis j'aimerais ça vous dire que c'était pour rien, mais à tous les fois, j'en avais besoin. Ça saignait. Il y a quelque chose qui va saigner parce que papa, il a des outils dans les mains. Et pour mon père, qui était extrêmement habile manuellement, il regardait son fils, puis il avait honte de moi. Il dit, t'es donc bien imbécile. Il a juste frappé sur le marteau avec le clou, là. Fait frappe. Ouais, mais je suis passé à côté. Parce que moi, ce que j'aimais, là, c'est de me pogner un livre puis de commencer à lire. Ça, là, j'aimais ça. Aller à la bibliothèque le samedi matin, au-dessus du poste de pompier dans le quartier, pour aller chercher mes 3 livres pour une semaine que je pouvais ramener à la maison. Puis il fallait que tu y retournes samedi matin prochain parce que sinon, c'était une scène par jour de retard. C'était une autre époque parce qu'il y en a qui ne savent même pas c'est quoi une scène. Tu vois, je pouvais passer une nuit entière cachée sous mes couvercles avec ma petite clampe de poche en train de lire mon livre. Et de faire lire le livre pendant une nuit de temps, finir le livre, fermer le livre, et enlever les couverts, il faudrait que je dorme, mais réaliser que le soleil se levait. Tu vois, ce que mon père n'a pas reconnu, c'est que je suis un intello. Je suis pas manuel. Mes outils sont ici, moi. Mais c'est ça que Dieu m'a donné. Parce qu'il ne voulait pas que je sois un contracteur. Il voulait que je sois un pasteur-thérapeute. Un pasteur-thérapeute, c'est pas vraiment important comment il va utiliser un tournevis. Vraiment pas. Mais ça peut être plus important d'utiliser d'autres outils qui sont dans ma tête. Le rejet. Peut-être le rejet de la famille depuis notre tendre enfance. Des hommes qui ont été rejetés par leur père. Ça fait des fils blessés. Ça fait des hommes blessés qui parfois peuvent devenir blessants. Peut-être as-tu vécu du rejet dans ton propre couple. Au niveau émotionnel, dans des relations. Peut-être tu as vécu la déchirure du divorce. et l'impression d'avoir été rejeté, d'avoir été sali, d'avoir été défectueux ou défectueuse, alors que tu t'étais donné. Et peut-être tu t'es relevé, t'as refait confiance et t'as revécu le rejet et la déchirure comme cette femme-là qui l'a vécu. Peut-être qu'on t'a abusé. Peut-être qu'on t'a abusé émotionnellement, peut-être qu'on t'a abusé physiquement, sexuellement. Peut-être qu'on t'a abusé spirituellement. On t'a rejeté. Peut-être que tu es seul parce que le conjoint ou la conjointe que tu avais est décédé. Et c'est comme si une partie de ta chair qui a été arrachée. Et ça fait tellement mal. Mais peut-être en es-tu aussi à une étape de te rejeter toi-même. De vouloir tellement étancher ta soif, de combler ta soif d'être aimé, d'être accepté. Et que tu t'embarques dans toutes sortes de relations amoureuses. Que tu t'embarques à tout prix pour ne pas être seul, pour ne pas être seul. Ou bien dans cette douleur, dans cette souffrance, tu t'isoles et tu te refermes et tu souffres seul, tu te barricades. Homme ou femme, tu te sens tellement seul. Et même à l'intérieur de la foule, même à l'intérieur du mariage, tu sais, si tu es célibataire aujourd'hui, je comprends ta solitude, que ça peut être douloureux. Mais je peux te parler d'une autre solitude qui est encore pire. C'est la solitude quand tu es marié. Quand tu es deux dans le même foyer et que tu te sens si seul. Tellement l'ont vécu pendant la pandémie. D'être enfermé, d'être confiné ensemble, deux personnes. Et c'est là qu'il y a plein de mariages qui ont éclaté. Pourquoi? Parce que les gens ont pris conscience à quel point ils étaient loin l'un de l'autre, à quel point ils étaient seuls. Les déchirures qu'on a pu vivre. Et peut-être que ça devient à tel point que tu as perdu toute estime de toi-même, toute confiance en toi, toute dignité personnelle. Tu as l'impression que tu n'as plus rien à donner. Je ne peux pas être utile à personne, je ne peux pas être utile à rien. Surtout pas dans l'Église. Je ne peux plus rien faire pour le Seigneur, je suis disqualifié. J'ai perdu espoir. Peut-être c'est le sentiment qui t'habite. Il n'est peut-être pas si intense, mais peut-être la racine est là. Le sentiment de rejet. Et arrive la rencontre avec Jésus. Arrive la rencontre. Versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Pas de l'eau du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Est-ce que tu vois ce que Jésus fait ici, là? Au lieu de la rejeter, au lieu de dire « Hey, pfiou, dégage, je connais ta réputation, je sais qui que t'es, là. Hein? » Ah, non, non, je n'ai pas d'affaire à parler. Là. Non, Jésus l'accueille. Tu vois, c'est ça qu'il faut découvrir de Jésus. Jésus est celui qui accueille ceux qui sont maganés, ceux qui sont brisés, ceux qui sont déchirés, ceux qui sont assoiffés. Jésus les accueille. Il reçoit, il comprend, il accepte la soif de cette femme-là, la juste soif d'être aimée. Et il voit la blessure profonde chez elle. Et Jésus lui offre la source, lui-même, son amour. Parce que la vraie source ultime d'amour inconditionnel ne se trouve pas dans un autre être humain. Arrête de penser que la journée, tu vas trouver l'homme de ta vie. Ah, tu vas être comblé, tu vas être complète. Crée-moi, il n'existe pas. Puis elle non plus, elle n'existe pas. Parce que chaque être humain a soif. A soif. Donc, je ne peux pas mettre toute ma dépendance sur un autre être humain. C'est en Dieu la seule source qui va me satisfaire, la source impérissable et intarissable, c'est en Dieu. Jésus nous donne une source d'amour inconditionnel, intarissable, une grâce incomparable, comme on a chanté tantôt. Si tu viens du vieux chant, je ne le chanterai pas. Je ne sais pas si vous êtes vieux, mais je vais me retrouver à le chanter tout seul. Mais il y a déjà eu un chant qu'on chantait qui se disait « Il est un fleuve, coulant du cœur de Dieu. » C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire et son amour me remplit. et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve d'amour. Et c'est là que ma soif va être rencontrée, une source d'amour qui m'accueille dans mes blessures, qui m'accueille dans mes erreurs, dans mes fautes, dans mes gaffes les plus monumentales que j'ai pu faire. Sa grâce m'accueille. Il vient rencontrer mon désir, ma soif la plus profonde de tout mon être. La base de tout mon être, c'est le besoin d'être aimé. De savoir qu'il y a un endroit, il y a un lieu où je suis sécure parce que je suis aimé. Et techniquement, selon le plan de Dieu, ça devrait être dans notre famille. Ça devrait être enfant, on devrait avoir trouvé ce lieu de sécurité avec papa et avec maman. C'est ça le plan de Dieu. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Mais en Dieu, je vais trouver cette base pour être aimé. Et c'est pour cela que Jésus va continuer en disant, versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. D'adorer, de communier, d'être en relation en esprit et en vérité avec Jésus. Pas nécessaire d'aller à Jérusalem, pas nécessaire d'aller sur une montagne, pas nécessaire de venir à l'église dimanche matin. Amen, c'était bon ça. Est-ce que tu réalises à quel point il y en a que leur vie spirituelle en a mangé toute une parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'église pendant la pandémie? Et je ne dis pas ça pour minimaliser la réalité, mais qu'il y avait trop de chrétiens qui dépendaient, leur vie chrétienne dépendait trop d'être à l'église au lieu d'être avec Jésus. Parce que Jésus n'a jamais été confiné. Il a toujours été accessible. Son trône a toujours été ouvert, avec ou sans masque. Non, on va l'adorer en esprit, mais on va l'adorer aussi en vérité. Si je veux être vrai devant Jésus, j'ai besoin de le faire dans la vérité. J'ai souvent dit à Jésus, « Jésus, quand je te regarde dans tes Écritures, là, quand je te regarde dans les Évangiles, je te regarde aller. » Une fois, je mets mon chapeau de thérapeute puis je me dis, « Coudon, es-tu bipolaire? » Parce qu'il y a des fois, là, que tu es rempli d'amour, de compassion, avec des gens de mauvaise vie, là, du mauvais monde, là, s'entend, là, OK? Rempli de compassion, rempli d'amour, de miséricorde, amen, alléluia. Puis après ça, tu te reviens d'abord, puis t'en ramasses, là, sur le bord des oreilles, là, je te dis que t'y manques pas, là, race de vipère, hein, puis vous êtes des sépulcres blanchis, puis hein, vous êtes des enfants du père du mensonge, puis wow! T'es qui exactement, là? Je sais, c'est lequel que je parle, moi, là? Et tu vois, ce que j'ai compris, c'est que Jésus ne veut pas la perfection. Pas la perfection qu'il veut. Ce que Jésus veut, c'est la vérité. Il veut qu'on soit vrai. Et remarque bien que les gens avec qui Jésus va se mettre en colère, c'est des gens qui prétendent quelque chose. Mais les gens qui sont vrais avec Jésus sont toujours accueillis avec miséricorde. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui viennent, que ce soit une prostituée qui vienne, que ce soit un lépreux, que ce soit... Peu importe. Ils savent qui ils sont, ils l'admettent ouvertement, ils sont vrais. Tu vois, c'est ça que Jésus cherche, des gens qui vont être vrais avec lui. Jésus invite la Samaritaine à la vérité, les erreurs qu'elle a faites, les erreurs qu'elle fait dans sa relation actuelle. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi est-ce que Jésus veut l'exposer dans ce qu'elle fait de mal? Parce qu'il veut la pardonner. C'est pour ça que Jésus le fait dans ta vie. Quand tu vas dans la prière, quand il se passe quelque chose et tu sens une conviction, ce n'est pas pour t'écraser, c'est pour que tu te répandes. Pour que tu lui demandes pardon, pour que tu lui confesses. Pour que tu lui confesses. Ce que Jésus nous demande, ce que lui demande, pour trouver le pardon, tu as besoin d'être vrai. Et Jésus lui offre d'être aimé, d'être pardonné, d'être lavé, qu'il n'y ait plus aucune honte, qu'il n'y ait plus de culpabilité. Libéré de tout fardeau. C'est ce qu'il offre à cette femme-là. C'est ce qu'il nous offre à chacun de nous. d'être lavé. C'est pour ça que Jésus veut qu'on soit vrai avec lui. Le Seigneur, j'arrive, je suis sale. Il y a une illustration que j'ai, je ne la fais pas partout parce que des fois, ça ne passe pas dans certaines églises. T'sais. Mais je pense qu'à Châteauguay, ça va passer. Trop souvent, est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué quand tu as un rendez-vous pour un nettoyage dentaire chez ton dentiste? Tu as déjà remarqué que c'est le matin que tu te brosses les dents, la soie dentaire, ça saigne de partout parce que ça fait des mois que tu n'as pas fait. Hein? Puis là, on arrive chez le dentiste pour se faire laver les dents. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui lave sa voiture avant d'aller au car wash, là. C'est quoi ça? Tu devrais arriver chez le dentiste, là, tu sais, 3-4 jours sans te brosser les dents, là. Tu sais, là, ah ouais. Ça va être payant aujourd'hui. Hein? J'espère qu'il n'y a pas personne qui travaille comme dentiste ou dans une clinique dentaire. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on fait la même chose avec Jésus. On s'en va voir Jésus pour être lavé, mais on fait tous les efforts avant pour se laver. Au lieu d'arriver à Jésus tel qu'on est, Jésus, je le sais que je suis sale. Je le sais, lave-moi. C'est ça, sa grâce. Sinon, je tombe dans la religion. Puis là, je fais des efforts pour me laver. Je fais des efforts pour être pur. Puis tu sais ce qui va arriver? Ça ne marchera pas. Tu vas juste étendre la boîte. C'est tout ce que tu fais. Au lieu de dire, Seigneur, je viens dans la vérité. Cette femme-là est dans la vérité. Elle est dans la vérité, cette femme-là. Et elle reçoit le pardon. Et regarde le retour. Qu'est-ce qui va prendre place? Verset 28 à 30. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche. Je ne sais pas si c'est le chum avec qui elle vit, là, mais ça... Bon. Pasteur Daniel, c'est une interprétation québécoise et non théologique. OK, cool. Je pourrais être certain. Elle s'en allait dans la ville qu'elle avait quittée. Et elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Imagine la scène un instant, là. Tu vois, elle s'en va devant tout son village, devant toute sa ville, devant tous ceux qui l'ont rejetée. Et elle s'en va vers eux. Parce que tu comprends que cette femme-là, elle a un tempérament. En bon québécois, elle a du torque. Parce qu'une femme n'est pas supposée parler à un rabbin comme elle le fait, là. Pas le droit de faire ça, là. Pas supposé de faire ça. Elle le fait, hein? Et à aucun moment, ce que Jésus dit, « Hey, ta petite attitude, là, ton caractère, wow, calme-moi ça, là. Calme-moi ça. Non. » Tu vois ce que Jésus, il fait, il prend le tempérament de cette femme-là parce qu'il sait qu'elle va avoir besoin de ce tempérament-là pour aller dans son village puis dire à tout le monde, sans aucune gêne, sans, avec audace et courage, elle va leur dire. Jésus ne voulait pas briser ce caractère-là. De la même façon qu'il n'a jamais voulu briser le caractère de Pierre. Parce qu'il savait très bien qu'au jour de la Pentecôte, c'est pas Tijan qui était pour y aller dans la ville. Mais c'était Pierre qui était pour y aller. Dans toute sa fougue, dans tout son caractère, dans qui il était. Et cette femme-là qui a du tempérament, cette femme-là qui a de la personnalité, Jésus la casse pas. Non. Il la rachète, il la lave, il la sanctifie, puis il dit « Vas-y maintenant ». Et elle s'en va dans son village. Elle retourne vers ceux qui l'ont rejetée, vers ceux qu'elle fuyait, ceux qui l'ont jugée, ceux qui trouvaient rien de bon en elle. Elle retourne vers eux. Et elle leur dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Time out. Oui, mais tout ce que tu as fait, là, c'était pour ça que tu étais dans la honte, toi. C'est pour ça que tu étais gêné d'être dans le village. Mais là, il va, puis il dit, non, il me dit tout ce que j'ai fait. Tu vois, c'est ça l'effet du pardon. C'est ça l'effet. Mon passé n'est plus un sujet de honte. C'est une démonstration de sa grâce et de son amour dans ma vie. C'est ça la grâce de Dieu. Mon passé, c'est plus un fardeau. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un que ça faisait... elle m'a connu à mon adolescence. Et puis là, on se revoit dans un contexte. Puis elle vient s'asseoir avec moi, puis je dis « Allô, comment ça va? » Hey, ça, pff, ouais, on s'y est vu à l'adolescence, wow. Ah hey, ouais, oui, hein, ça fait longtemps que bon, bon. Et là, elle me regarde, elle dit « Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? » Je comprends pas, là, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit « Le Daniel que j'ai connu, là, à l'adolescence, là. Puis là, t'es un preacher. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'est arrivé? » Ben, je dis « Étant donné que tu poses la question. » On me fait plaisir de te le dire, ce qui m'est arrivé. Il y a un face-à-face avec Jésus, moi. C'est ça qui m'est arrivé. Face-à-face. J'ai pas pogné un coup de soleil, j'ai pogné un coup de gloire. Puis il m'a réalisé tout l'amour qu'il y avait pour moi dans ce Daniel que tu as connu. Puis toutes les gaffes que j'ai faites, puis toutes les horreurs que j'ai faites, puis tous les comportements disgracieux que j'ai pu faire. Je comprends. Je comprends ta réaction. Mais tu vois, Jésus, il sait tout. Il m'a pardonné, il m'a lavé. Tu vois, c'est ça que la femme est en train de faire ici. Elle leur dit, et les gens qui l'ont rejeté, les gens qui l'ont... Ce sont les gens qui s'ouvrent à elle, qui écoutent ce qu'elle dit. Tu vois, Jésus l'avait accueilli, il l'avait accepté, il l'avait pardonné. Et c'est elle qui ne pouvait même pas donner un verre d'eau à Jésus. Devient une des plus grandes évangélistes du Nouveau Testament. Et tout son village est bouleversé par cette source d'amour en Jésus qui lui donne cet amour en elle pour aimer ceux qui l'ont rejeté. Parce que même ceux qui rejettent ont soif d'être aimés. Ils ont soif d'être aimés. À tel point que ça nous dit que tout le village a écouté cette femme-là. T'imagines? La femme de mauvaise réputation qu'on veut pas voir, là. Celle qui nous fait honte à tout le village, là. Elle revient et elle dit, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit toutes les gaffes que j'ai faites, toutes les erreurs que j'ai faites. Il me les a toutes dit. Je pense que j'ai trouvé le Christ. Puis ils sont tellement frappés par sa démarche, tellement frappés par ce qu'elle dégage. Ils s'en vont voir. Ils l'écoutent. Et la scène continue. Pendant ce temps-là, il y a une parenthèse qui prend place. Parenthèse des disciples. Verset 31-35, ça nous dit ceci. « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? » Et Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » La parenthèse, c'est l'aveuglement des disciples. Les disciples sont venus avec leur lunch. Ils sont arrivés de McDo, puis ils ont tout leur sac de lunch. Hein? Puis eux autres, ils veulent manger, là. Tu comprends? Ils ont faim. Ils veulent manger. On pique-nique ensemble. Ah oui. Hein? Et là, c'est comme si Jésus est ici. Hein? C'est comme si Jésus est ici. Et là, tous les disciples, eux autres, sont comme ça. Hein? Puis là, ah oui, Jésus, on va manger. Jésus, oui, on va manger. Mais tu vois, ils font dos au village. Ils ne voient pas le village. Mais Jésus regarde au-dessus d'eux, à travers eux. Et ce que Jésus voit, c'est que le village commence à sortir et puis ils s'en viennent. Parce que la femme, là, ils s'en viennent. Là. Ils s'en viennent. Puis Jésus dit, vous rendez-vous pas compte que les champs sont blancs? Les champs sont blancs. Mais tu vois, la raison pourquoi ils ne voient pas les champs, c'est qu'ils regardent à Jésus puis ils sont heureux d'être ensemble. Ils ne regardent pas dans la même direction que Jésus. Ils regardent à Jésus. Mais ils oublient de regarder dans quelle direction est-ce que Jésus regarde. Ils ne voient pas la foule. Et trop souvent, j'ai l'impression que ça ressemble à l'Église. On est refermé sur nous-mêmes. On mange ensemble, on a du bon temps ensemble, on regarde à Jésus. Amen, c'est correct ça. Mais est-ce qu'on voit ce que Jésus voit? Est-ce qu'on voit les gens autour de nous comme Jésus les voit, comme Jésus les regarde? Tu sais, tantôt, avant la réunion, j'étais dans le bureau du pasteur et puis je regardais par la fenêtre. Puis je voyais des maisons. Je disais, Seigneur, comment on va les atteindre, ces gens-là? Ils sont là, ils sont à la maison maintenant. Comment on peut les atteindre, Jésus? Tu sais, nous montrer, parce que je sais qu'ils ont soif, Jésus. Puis ils essayent de s'abreuver dans des endroits épouvantables, des fois. C'est juste parce qu'ils ont soif, Jésus. C'est vrai qu'ils ont des vies désorganisées. C'est vrai. C'est pas des chrétiens. Et on peut-tu être honnête de dire, des fois, même des chrétiens ont des vies désorganisées, mais là, on ne veut pas aller là, c'est un autre sujet. Mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu vois, Châteauguay? Comment tu vois, Châteauguay? Quand tu regardes, alors qu'on te regarde à toi, là, mais parfois, on a peut-être commencé à dire, qu'est-ce que toi, tu vois, Châteauguay? Qu'est-ce que tu vois autour de moi? Comment tu vois les gens autour de moi? Tu vois, on est appelé à briller dans les ténèbres. Trop souvent, on se limite à briller dans l'Église. Ça, c'est à la pêche dans l'aquarium, là. On brille entre nous. Ouh, regarde mon spot. Ah, mon spot est plus gros. Ouh! Non, on est appelé à briller dans les ténèbres. Parce que les gens qui ont soif sont là, là. Je dis, Seigneur, comment on peut les abreuver? Parce que tu nous donnes des sources de vie, des sources d'amour qui doivent jaillir dans un monde qui est tellement, tellement desséché. Desséché. Puis qui a soif. Je termine avec la réjouissance. Fin de la parenthèse. Verset 39 et 42, ça dit, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui. » Le sauveur du monde. Peux-tu t'imaginer pendant 2 jours la fête qui prend place? C'est tellement intense, c'est tellement du cri du cœur que Jésus dit, « OK, wow, c'est beau les boys. On avait prévu juste passer, mais là, on va rester ici 2 jours. On va rester ici 2 jours parce que les gens, ils ont besoin. » Et ça nous dit que de nombreuses personnes sont venues à croire en Christ. Et tout le village a été dans la réjouissance. As-tu vécu du rejet, la déception? Peut-être que tu es dans un isolement, un confinement qui n'est pas ton choix, loin de ton rêve que tu pouvais avoir à l'enfance. Es-tu dans des compromis de vouloir essayer de rencontrer la soif? Peut-être es-tu dans des dépendances de toutes sortes, pour essayer de rencontrer cette soif-là d'être comblé, d'être rempli, alors qu'il y a un vide intérieur et tu penses qu'une dépendance va t'aider à venir le combler. Et encore hier soir, peut-être encore en fin de semaine, tu as chuté dans ta dépendance et tu es encore vide ce matin. C'est ça le mensonge d'une dépendance. C'est que ça ne nous remplit pas. Et pendant ce temps-là, toute ton estime, toute ta dignité en prend un coup. Au point où tu as l'impression que tu es honteux. Honteuse, plus de valeur, plus utile à personne. Arrête d'aller aux mauvaises sources ce matin. Viens à la source ce matin. Alors que Ben va venir me rejoindre. Ce matin, Jésus ne te rejette pas. Jésus t'accueille ce matin. Ouais, mais si tu savais. Ouais, Jésus le sait. Il veut juste que tu sois vrai. Je dis, c'est vrai ce que j'ai fait. Parce que Jésus t'accueille à bras ouverts. C'est la seule source d'amour qui peut envahir tout ton être et venir te consoler. Viens en esprit, mais viens aussi en vérité ce matin. Parce que la guérison du rejet, elle est possible avec une rencontre avec Jésus. Et comme la Samaritaine, au lieu de cacher de rester dans les lieux déserts, tu vas pouvoir recevoir. Et non seulement tu vas recevoir, mais tu auras à donner. Parce qu'à donner cet amour inconditionnel jusqu'à l'éternité. Ça nous dit ceci que Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il y a des gens autour de toi qui ont soif. Mais tu as soif. Et ce matin, tu as besoin de venir t'abreuver à la seule, la vraie source. On peut courber nos têtes ensemble. Tu es ici ce matin et tu te sens vraiment desséché. Peut-être que tu te sens dans le rejet, dans la honte. Peut-être que tu te sens dans la douleur. Peut-être que tu te sens dépourvu comme cette femme-là qui se regarde et qui se dit « Je suis tellement loin de mon rêve, de mon enfance. » C'était pas ça que je rêvais. L'impression peut-être que tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Jésus te dit ce matin, viens à moi, viens à moi, et je vais te donner des eaux vives. Je vais te laver, je vais te purifier, je vais te sanctifier. Je vais commencer une œuvre en toi. Ce ne sera pas juste par tes forces, je vais être là pour t'aider. Je vais être là pour t'aider à sortir de ta dépendance. Je vais être là pour t'aider à ce que tu ressentes ma présence et ma puissance et que tu ressentes mon amour. Je vais être là. Je vais venir t'abreuver. Comme la Samaritaine, sois vrai ce matin et reçois-le. Et reçois-le. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais vraiment prier pour toi. Et ce que je te demanderais, c'est juste de lever ta main là où tu es. J'ai vécu beaucoup de rejet, j'ai vécu du rejet. J'ai besoin d'être abreuvé d'amour ce matin. J'en ai vraiment besoin. Parce qu'il y a des choses qui sont brisées en moi. Il y a des choses... J'ai besoin de cette source comme cette Samaritaine avait besoin. Peut-être que tu as vécu du rejet dans ton enfance, dans ta famille. Je sais que c'est douloureux, je le sais. Peut-être que tu as reçu du rejet à cause de ta race, à cause de ta culture, à cause de ta langue, à cause de ton genre. Jésus est là pour t'accueillir ce matin et te dire non, non, non. Sors de la honte. Entre dans l'amour. Entre en esprit et en vérité. Et je suis là pour te pardonner. Je suis là pour t'aimer. Je suis là pour faire jaillir de toi des eaux vives qui non seulement vont t'abreuver toi, mais vont abreuver les gens qui sont autour de toi. Même ceux qui t'ont rejeté comme cette Samaritaine. Seigneur, tu as vu toutes les mains qui se sont levées. Seigneur, tu as même vu les mains qui ne se sont pas levées parce que dans le cœur, ça disait, j'ai même pas le droit de lever ma main. Je suis trop honteuse ou je suis trop honteux. Toi, tu vois les cœurs ce matin. Je te prie maintenant, Jésus. Ah, dans ta grâce, dans ta miséricorde. Alors que nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Viens nous envahir et nous remplir de cet amour, Seigneur Jésus. Cet amour inconditionnel, intarissable, une source. Source de vie pour goûter à la vie en abondance. Seigneur, ceux qui sont dans la solitude aujourd'hui, ceux qui vivent puis pas par choix, mais qui sont dans une solitude, et peut-être sont même mariés, ils sont dans une solitude, viens les combler, je te prie, viens les rencontrer ce matin. Viens les remplir de ton amour, que ton regard est posé sur chacun d'eux, sur chacune d'eux. Que toi, tu ne rejettes jamais personne. Il y a des gens qui m'ont rejeté. Peut-être même des églises m'ont rejeté. Mais toi, Jésus, jamais tu me rejettes. Alors, Seigneur, je viens à toi ce matin, en esprit et en vérité, pour t'adorer et te louer, et te rendre grâce pour recevoir ton amour. Et Seigneur, aide-moi. Aide-moi, quand parfois j'ai tellement de honte, j'ai de la difficulté à recevoir ton amour. Seigneur, aide-moi à pouvoir la recevoir. En ton nom, Jésus, tout le monde a dit amen et amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, et juste dans un dernier chant, de faire du dernier chant notre prière ce matin, tous ensemble.